Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse 15. Apocalypse 15, les versets 1 à 4. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. Sept anges qui tenaient sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors le prédicateur que nous avons aujourd'hui est venu, paraît-il, il nous l'a dit hier, une fois à l'église de Dame Marie prêcher. Certains doivent s'en souvenir, mais pour tous ceux qui sont récents, vous n'avez pas la souvenance. Il est l'aîné de quelqu'un que vous connaissez peut-être mieux, qui s'appelle Patrick, et qui travaille à l'Union, qui est le trésorier de l'Union. Jean-Paul Lagarde est membre de l'église de Manosque, il vit dans le sud, une région que j'apprécie bien, puisqu'on y a passé 25 jours cet été. Et il nous délivrera aujourd'hui le message de la part de Dieu. Mais il est également, vous savez qu'à partir de 15h cet après-midi, il y a une réunion, et que dimanche matin, il y aura une seconde réunion concernant le terme de l'Apocalypse, et si l'Apocalypse avait raison. Alors sans plus, je souhaite à Jean-Paul et à son épouse, qui est parmi nous, une très cordiale bienvenue dans l'église de Dame Marie.
Merci, merci bien de cette chaleureuse bienvenue. Et il est vrai que un bon nombre de visages ne me sont pas inconnus. Et cela fait remonter bien des souvenirs. Et effectivement, on m'avait confié la prédication il y a 19 ans de cela. Je ne saurais pas dire la date exacte, mais c'était en 93, je pense. Alors, je suis heureux de me retrouver maintenant devant vous, mais j'ai envie de dire avec vous. Parce que nous avons des choses à étudier, nous avons des choses à comprendre ensemble, nous avons des choses à approfondir ensemble. Et au cours de ces deux séminaires que nous allons vivre, je vais sans doute vous dire des choses qui sont un peu différentes de ce que vous avez entendu jusque-là. Mais mon propos n'est pas la polémique, mon propos est la recherche. Et j'aimerais que vous puissiez me considérer, et j'aimerais pouvoir vous considérer aussi comme des chercheurs de vérité. C'est-à-dire que nous allons nous plonger dans un texte réputé difficile, mais nous ne sommes pas là pour nous combattre, nous sommes là pour nous aider à comprendre. Et plus il est difficile, plus nous avons besoin de nous aider pour comprendre. Et cette introduction, pour moi, n'est pas un simple effet de langage. Elle correspond à une réalité. Ça fait plus de 30 ans que je cherche dans l'Apocalypse et dans toute la Bible. Et si vous êtes un étudiant de l'Apocalypse, un tant soit peu, vous vous rendez vite, très vite compte que vous êtes obligé de circuler dans toute la Bible. On m'a dit parfois, mais tu n'en as pas assez d'étudier cet Apocalypse depuis plus de 30 ans. Mais l'Apocalypse me fait étudier toute la Bible, en réalité. Alors voilà, j'aimerais donc vous inviter à une réflexion. J'aimerais vous inviter à peut-être à abandonner un certain nombre de préjugés et de se lancer vraiment dans cette étude attentive du texte. Ce texte est d'une précision extraordinaire. C'est, comme dit la parole, des ciselures d'argent. Chaque mot est à sa place. Chaque mot a un sens. Et si je pouvais, un tant soit peu, vous faire découvrir la richesse de ce texte, alors, franchement, le but serait atteint. J'aimerais, dans un premier temps, vous raconter un petit peu mon histoire avec l'Apocalypse. Parce que ce livre a changé ma vie. Il a changé ma relation à Dieu. Il a changé ma perception du jugement. Il a changé réellement ma vie chrétienne. Et mon plus vif désir, ce serait que vous puissiez voir dans ce texte, non pas simplement la description d'événements futurs, mais la découverte d'un Dieu extraordinaire, comme peut-être vous ne l'avez jamais vu avant. Alors on va commencer, et je vais commencer à vous dire comment ça s'est passé pour moi. Je vous l'ai dit, ça fait plus de 30 ans que je regarde ce texte, et je me rappelle encore que jeune homme à l'église de Toulouse, et Alain Ménis, qui était un collègue à ce moment-là, se rappelle de ce temps-là, j'interrogeais la lectrice biblique, sœur Meurice, sur des questions d'Apocalypse. Et déjà, je me posais des questions. Et la pauvre femme me répondait comme elle pouvait, mais je dois vous dire honnêtement que si elle avait des réponses intelligentes et pertinentes, ça ne me satisfaisait pas entièrement. Alors, j'ai regardé ce texte, et franchement, je pataugeais. Alors, si vous pataugez dans ce texte, n'ayez pas de crainte, j'ai été un pataugeur avant vous. Simplement, je pataugeais tellement qu'à un moment donné, je me suis dit, voyons, peut-être que, à force de lire ce texte, tu t'en imprègnes comme une éponge, peut-être qu'il te transforme à ton insu, et qu'il te dit quelque chose sans même que tu t'en rendes compte, c'est possible. Mais comment le savoir ? Parce que moi, je ne voyais aucune avancée dans ce texte. Alors, il m'est venu une idée saugrenue. Et pardon pour ceux qui connaissent mon histoire, mais c'est vraiment une idée saugrenue. Si je ne suis pas capable de juger moi-même de l'évolution que je fais au contact de ce texte, si tant est qu'il y ait une évolution, je vais le faire à travers les questions que je me pose. Et je vais écrire les questions que je me pose. Je vais lire l'Apocalypse une fois, en entier, et écrire toutes les questions que je me pose. Et puis dans un an, vous savez, il ne faut pas longtemps pour lire l'Apocalypse, j'ai essayé de la lire d'affilée, il faut une heure. Je crois que j'ai mis 55 minutes pour lire l'Apocalypse. Et je peux vous dire que j'ai passé beaucoup plus d'heures que ça sur ce texte. Donc je me suis dit, tu vas écrire toutes tes questions. Puis dans un an, tu reliras le texte et tu vas noter tes questions. Si tes questions sont les mêmes, c'est que tu n'as pas changé. Mais si tes questions sont un peu différentes, ben ça veut dire que ton point de vue, que ton impression, que ton ressenti a évolué et peut-être que finalement ce texte agit à ton insu en toi. Et j'ai commencé. Et là, il s'est passé quelque chose de tout à fait inattendu pour moi. Est-ce que je peux vous dire que cette première lecture, le crayon à la main, je ne l'ai même pas finie ? Seulement, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'écrire et de préciser des questions. Et quand je dis préciser, je m'interrogeais par exemple sur que veut dire ceci ? Sachant que ça ne veut pas dire ça, mais pour autant je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais voyez, je cernais la question. Eh bien, le fait de cerner la question faisait que, dans le texte même, apparaissaient des éléments de réponse. Et si je peux me permettre un conseil, le premier conseil que je peux vous donner si vous avez envie de rentrer dans ce texte, c'est de vous poser des questions, de ne pas hésiter à vous poser des questions. Le deuxième point, c'est de le faire un crayon à la main et de poser des questions précises, parce que vous n'obtiendrez des réponses précises que si vous posez des questions précise. Alors, j'ai commencé. Et quand des éléments de réponse arrivaient, j'hésitais à les noter parce que c'était tellement nouveau pour moi que je n'étais pas sûr qu'ils soient justes. Seulement, si je ne les notais pas, je les oubliais. Alors j'ai noté ces éléments de réponse et j'affectais chaque question et chaque élément de réponse d'un numéro. Je n'avais pas fini la première lecture que j'étais déjà à 450 points. Mais j'avais tellement avancé dans la compréhension, c'était tellement neuf pour moi ce que je découvrais, que j'en parlais autour de moi. Et il s'est créé un premier cercle d'études. Nous étions 5. Et dans ce cercle d'études, chacun étudiait chaque semaine et amenait ce qu'il avait trouvé, découvert dans ce texte. J'ai besoin de vous dire que j'ai observé une deuxième règle. J'ai mis de côté tous les commentaires. Y compris, et je ne voudrais choquer personne, mais y compris les compilations que l'on avait pu faire sur le sujet des écrits de Madame White. Tout ça, je l'ai mis de côté et j'ai voulu me trouver seul face au texte. Je reviens à mon petit groupe et mon épouse qui est là, mais qui n'était pas mon épouse à ce moment-là, faisait partie de ce petit groupe. Et nous avons commencé. Et nous avons avancé. Et chacun était tellement heureux de ce qu'il découvrait qu'ils en parlaient autour d'eux. Et puis s'est créé un second groupe. Peu de temps après, il s'est créé un troisième groupe. Puis un quatrième. Et jusqu'à 7 groupes. Et vous imaginez que c'était difficile à gérer. Mais ça m'a permis d'avancer énormément. Et au bout de cette année où il y avait 7 groupes, je me suis dit, mais pourquoi ça ne serait pas ton activité principale? Et ça a été la motivation principale pour moi pour aller faire mes études de pasteur et commencer ces études à Collonges. Voyez, il y a une histoire, mais il y a là la découverte extraordinaire de choses que je n'avais jamais entendues avant. J'aimerais vous dire que ce que j'ai cherché au départ, comme probablement la plupart d'entre vous quand on regarde l'Apocalypse, c'est un petit peu de décrypter l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Et plus encore maintenant. Et vous avez certainement dans votre entourage des conversations qui parlent de l'avenir. Que va devenir le Moyen-Orient? Que va devenir l'Europe? Et les pays d'Extrême-Orient, est-ce qu'ils vont finir par dominer le monde? Sans parler du calendrier maya et de cette échéance au 21 décembre 2012. Les gens sont tracassés par ces choses-là. Donc, il y a un terreau, là. Et on aimerait pouvoir donner des réponses, et malheureusement, nous n'avons que peu d'éléments. Alors, je reviens sur ce sujet-là. vous avez des conversations autour de vous, vous avez peut-être envie d'en savoir plus, je ne vais pas vous dire, venez au séminaire et vous allez tout savoir. Ça n'est sûrement pas la démarche que je vous propose. Parce que si j'ai cherché au départ l'explication et des précisions sur les événements futurs, ce que j'ai découvert va bien au-delà. Ce que j'ai découvert, c'est un Dieu bon, un Dieu généreux, un Dieu non directif, un Dieu auquel je ne m'attendais pas du tout. Et ce qui me pousse encore, aujourd'hui, à sonder ce texte et à fouiller ce texte, c'est l'amour de Dieu que j'ai découvert. Je peux dire sans exagération que le livre de l'Apocalypse est celui qui m'a fait le plus découvrir l'amour de Dieu. Alors quand on le voit habituellement comme un livre de guerre, de plaies, de bosses, peut-être que ma déclaration vous étonne. Et pourtant, je peux vous dire qu'elle est parfaitement vraie et vécue. J'aimerais vous en donner un exemple. Et ce n'est pas tout de le dire, il faut que je vous le montre. Et en particulier, je vous disais tout à l'heure que mon regard sur le jugement de Dieu a changé. Je ne vois plus du tout le jugement comme je le voyais avant. Quelques exemples, quelques fils d'Ariane, quelques fils conducteurs dans ce chemin-là. Nous avons l'habitude de penser la justice en termes de sentence. Et nous avons le sentiment que la justice a été bien rendue quand la sentence donnée est en adéquation avec la faute, proportionnée à la faute. Mais la justice de Dieu est différente. La justice de Dieu ne consiste pas à rendre une sentence juste. Elle consiste à nous changer, à nous rendre justes. Il y a dans la Bible un seul jugement, mis à part le jugement de Jésus, mais qui est une parodie de jugement, un seul jugement qui nous est donné. C'est le jugement rendu par Salomon. Tout le monde connaît cette histoire du jugement de Salomon. Deux femmes prostituées sont venues le voir. Chacune avait eu un enfant, et l'un des enfants était mort. Et il y avait une dispute au sujet de l'enfant vivant. Cette histoire a traversé les siècles parce qu'elle montre la sagesse. Elle montre la sagesse de Salomon, sagesse qui lui venait de Dieu. Et vous savez qu'il a menacé avec une épée de partager l'enfant en deux pour en donner la moitié à chaque femme. Et qu'à ce moment-là, le cœur de la vraie mère s'est manifestée et qu'elle a dit « Non, non, ne le tuez pas, donnez-le-lui plutôt. » Alors que la fausse mère a dit « Oui, oui, comme ça, coupez-le en deux, comme ça il ne sera à personne. » Ce jugement donnait-il une sentence juste? Oui, l'enfant a été rendu à la vraie mère. Mais si nous réfléchissons à la manière dont ça se passerait de nos jours, je crois que la DAS ou la DIS prendrait l'enfant et ne le confierait à aucune des deux mères. Mais ça n'est pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que vous réalisez que le jugement qu'a donné Salomon à ce moment-là est un jugement qui a permis de mettre en évidence, de mettre en lumière les véritables sentiments de ces deux femmes. Et si le jugement de Dieu était de même nature, si l'objectif principal du jugement de Dieu n'était pas de rendre une sentence juste, ou de faire un tri, comme nous l'imaginons d'habitude, entre les bons et les mauvais, mais de mettre en lumière ce que sont les vrais sentiments, les sentiments profonds du cœur. Parce qu'à ce moment-là, dans le cas du jugement de Salomon, la décision devenait évidente. La décision devenait évidente. Ne vous êtes-vous jamais interrogé sur ce que pouvait être la difficulté d'une décision de Dieu pour choisir les élus et écarter les réprouvés ? Choisir les élus et écarter les réprouvés. Étant plus jeune, j'imaginais une longue file, vous voyez, et puis on allait du meilleur au moins bon. Et il fallait que le couteau passe quelque part. Hein. Donc on avait d'abord les très bons, très très bons, cela passait, comme un examen, vous voyez, et puis les moins bons, mais enfin ça passait quand même, et puis il y avait ce que l'on rattrapait par les cheveux, et puis après la porte claquait. Et puis on avait ceux qui étaient refusés, refusés de justesse, mais refusés. Et puis on allait jusqu'au plus mauvais. Et je m'interrogeais sur celui pour lequel la porte allait claquer juste derrière lui. Lui devait être content. Mais imaginez celui qui était juste derrière la porte. Et la porte claque juste devant. Quand j'imaginais cette scène du jugement et du tri, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait être cela que Dieu allait faire. Impossible. C'était une impossibilité pour moi que les choses se passent ainsi. Et pourtant, est-ce que nous ne l'imaginons pas un peu de cette manière ? Dans le jugement de Salomon, il n'y a pas eu d'hésitation. Il n'y a pas eu des justes sauvés ou des justes. Quand j'en dis juste, c'est l'adverbe à peine. Hein, à peine sauvé et à peine perdu. Le jugement a été très clair. Eh bien, j'ai envie de vous dire que pour le jugement de Dieu, ce sera très clair. Ceux qui seront sauvés le seront pleinement et à juste titre. Et ceux qui seront perdus le seront pleinement et à juste titre. Mais quand je dis à juste titre, vous m'entendez bien, je ne dis pas qu'ils le mériteront, parce qu'aucun de nous ne mérite le salut. Mais le critère que Dieu va employer, quel est-il ? Eh bien, le critère, on l'a évoqué ce matin dans cette étude de l'Épître aux Thessaloniciens. C'est une question qui tient au fait d'aimer la vérité, ou de rechercher le mensonge. Alors je ne m'attarde pas là-dessus, mais j'aimerais vous amener sur un autre aspect de ce jugement qui va vous montrer la bonté de Dieu. Quand vous regardez au texte de Daniel, au chapitre 7, et nous allons le lire ensemble, le texte du chapitre 7 de Daniel, qui vous parle du jugement. Daniel 7, les versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Et vous avez là quelque chose d'extrêmement étonnant que nous allons retrouver dans l'Apocalypse. On imagine Dieu seul juge. Eh bien, Dieu se présente dans le jugement avec des assesseurs. Dieu n'est pas le seul juge. Mais qui est capable de juger? Et l'Apocalypse va nous conduire dans ce chemin parce que nous voyons qu'il y a là plusieurs juges. On ne nous dit pas combien. L'Apocalypse va nous dire combien. Ce sont 24 anciens. En réalité, le chiffre est très probablement symbolique. Mais nous allons lire la scène équivalente dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4, verset 2. « Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête, des couronnes d'or. » Et là encore, Dieu se présente avec des juges assesseurs, parce que les anciens avaient fonction de juge en Israël. Et vous voyez déjà ce Dieu qui se présente comme non pas le seul juge, mais comme le président d'une cour de justice, où d'autres êtres vont participer au jugement, c'est déjà quelque chose d'extrêmement étonnant. Mais l'étonnement ne s'arrête pas là. La manière dont Dieu va gérer ce jugement est déjà en soi quelque chose d'extraordinaire. Et le premier élément à découvrir dans cette cour de justice, c'est qu'il s'agit d'une cour de justice à géométrie variable. C'est-à-dire que le nombre de juges qui est au départ restreint à 24, même si le chiffre est symbolique, va s'étendre. Si vous lisez le contexte, le trône de Dieu est sur cette mer de verre. Et vous avez là des trônes qui sont installés, et ces 24 anciens vont juger. Allons un petit peu plus loin avec le texte qui vous a été lu tout à l'heure, en Apocalypse 15. Et nous observons ceci. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait les sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils sont donc déjà là, même s'ils sont toujours sur la terre, ils sont déjà là en présence du trône de Dieu. Et leurs paroles sont assez étonnantes. Observons-les rapidement. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Si un jour toutes les nations viennent se prosterner devant Dieu, quelle en est la raison? C'est parce que ces jugements auront été manifestés. Eh bien, cela nous rapproche du jugement de Salomon. Que s'est-il passé à l'issue du jugement de Salomon? Tout Israël a reconnu que Salomon avait exercé ce jugement avec beaucoup de sagesse. En d'autres termes, la sagesse de Salomon lui-même a été jugée par la population. Faisons la translation. Dans le jugement de Dieu, Dieu lui-même sera jugé sur la manière dont il a jugé, dont il a mené le jugement. Et alors vous voyez que ça nous donne déjà du jugement une vision un peu différente et un peu élargie. Mais je continue.
Nous allons maintenant. Mais je continue. Nous allons maintenant au chapitre 20. Et au chapitre 20, nous trouvons ceci, au verset 4. Puis je vis des trônes. Et là, il n'y en a plus 24. Vous allez voir qu'il y en a bien plus. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Alors nous avions Dieu, il était déjà étonnant qu'il y ait 24 assesseurs. Mais ici, la cour de justice devient énorme. Parce qu'on voit des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et qui sont ces personnes qui s'y assiedent ? Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent l'image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et là, à travers ce texte, et je pourrais le faire à travers bien d'autres, on souligne cette double valeur du trône. Dans notre mentalité occidentale, le trône est associé au règne. Mais pour un juif, c'est associé au règne et au pouvoir de juger. Et ceux qui s'y assirent, il leur est donné le pouvoir de juger. Il dit de Dieu, tu es assis sur ton trône en juste juge. Et donc vous voyez que la notion de trône est intimement liée au fait de juger. Je voudrais vous confirmer cela à travers deux textes. Nous pouvons le voir dans Psaume, au verset 9, au chapitre 9 plutôt, Psaume 9, le verset 4. Car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Et j'aimerais vous lire un deuxième texte, au psaume 122, verset 5. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Voyez donc que la notion de trône est associée à la notion de jugement. Et donc nous voyons que pendant cette période des 1000 ans, au chapitre 20, et mon propos n'est pas de vous parler des 1000 ans aujourd'hui, vous voyez que la cour de justice devient considérable. C'est l'ensemble des élus qui probablement deviennent juges. Juges de quoi, juges de qui? Nous le verrons plus tard. Du moins, je l'espère, si nous arrivons ensemble au chapitre 20. Mais j'aimerais vous montrer une dernière étape. Et elle se trouve toujours au chapitre 20, au verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Peut-être que ce terme ne vous a pas frappé, mais le trône de Dieu apparaît blanc. Vous pouvez regarder toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, il n'y a pas un autre endroit où le trône de Dieu est blanc. Mais qu'est-ce que ça signifie? Là, tous sont réunis. Comme dans la parabole des brebis et des boucs dans Matthieu 25, tous sont réunis, les élus et les réprouvés. Et là, aux yeux de tous, le trône de Dieu apparaît blanc. Si nous gardons cette symbolique du trône de Dieu, ce trône de Dieu, c'est le jugement de Dieu, c'est la manière dont Dieu a jugé. Et aux yeux de tout l'univers, aux yeux des élus, comme aux yeux des réprouvés, le trône de Dieu apparaît blanc. la manière dont Dieu a mené le jugement crée l'assentiment, le consensus général. Étonnant. Il ne s'agit pas simplement de tous les élus qui vont juger, mais il s'agit de l'ensemble des créatures de Dieu qui vont juger de toute l'histoire, qui vont juger de leur propre histoire et qui vont juger de la manière dont Dieu a mené ce jugement. Pour confirmer cela, je pourrais citer plusieurs textes de l'Ancien Testament, mais j'aimerais revenir au texte qui vous a été lu tout à l'heure en Apocalypse 15. Et reprendre ce que dit cette foule qui est sur la mer de verre. Verset 3. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Pas seulement les élus, mais tous, même parmi les réprouvés. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations, tout le monde, viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Le jugement de Dieu, la manière dont Dieu a mené le jugement, et je pourrais dire la manière dont Dieu a mené le salut qu'il offre aux hommes, mais la manière dont Dieu a mené le jugement fera l'objet d'une reconnaissance universelle, y compris parmi les réprouvés. Alors, peut-être que cela nous donne une autre idée du jugement. Et vous comprenez peut-être que ce jugement ne peut pas se faire d'un claquement de doigts, parce qu'en réalité, ce jugement est une démonstration aux yeux de l'univers entier. Eh bien, si j'ai pu vous montrer combien le jugement a changé d'aspect simplement à travers ces quelques versets de l'Apocalypse, alors mon but est atteint. Parce que pour moi, Dieu n'est pas celui qui coupe, qui tranche, qui décide seul, qui élimine celui qui arriverait trop tard. Non. Il est celui qui sauve et qui jusqu'au bout va tendre toutes les perches possibles au pécheur pour l'amener de son côté, pour l'amener à le voir, lui Dieu, tel qu'il est, non pas comme le Père Fouettard, mais comme le Dieu qui sauve. Évidemment, on peut refuser cela. Pensez à Judas, qui tout en reconnaissant la justesse, la vérité, l'authenticité, la vérité de Jésus, est quand même allé se pendre. Il y aura des perdus. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas des perdus. Mais même les perdus, comme Judas, reconnaîtront que Dieu est juste et que Dieu a fait tout ce qu'il était possible de faire pour sauver la plus grande comme la moindre de ses créatures. Est-ce que je peux dire, est-ce que je peux aujourd'hui, et je le mets entre guillemets, juger Dieu sur ce qu'il a fait pour moi, réaliser tout ce qu'il a fait pour moi? J'aimerais vous laisser un dernier verset que je vais prendre dans le livre d'Ésaïe au chapitre 5, au verset 3. Je vais lire dès le premier verset. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et émit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, et considérons que ça s'applique à nous tous, soyez juges entre moi et ma vigne. Jugez-moi. Dieu nous appelle à le juger. Jugez-moi, mais jugez-moi sur quoi ? Soyez juges entre moi et ma vigne.